Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
C'est le pays où le KGB se survit. La Biélorussie, la dernière dictature d'Europe. Une anomalie, peut-être plus pour longtemps, car l'ours russe a entrepris de la dévorer.
Rendez-vous avec X, tous les samedis à 13h30, sur France Inter.
France Inter,
la différence.
Là-bas, si j'y suis, c'est en France et c'est avec un répondeur, ça commence toujours comme ça.
Bonjour à tous, salut Daniel, salut François, c'est Christophe, le petit épicier casino d'Arras, dont là-bas, si j'y suis, vous a narré les malheurs à plusieurs reprises dans les tenailles du groupe Casino. Je suis ravi de vous annoncer qu'après 4 ans de procédure et d'un combat acharné, nous venons enfin de faire condamner ces patrons voyous par la cour d'appel de Douai. Victoire dans les grandes largeurs. Mieux encore, mon camarade Sylvain à Quimper et de plus en plus de collègues obtiennent gain de cause devant les tribunaux, que ce soit les prud'hommes, les cours d'appel ou la cour de cassation. La solidarité et la lutte finissent par payer. Ça, on le savait. Mais c'est bon d'en avoir confirmation. Maître Fromentin et les confrères avec qui elle collabore n'y sont pas pour rien. Et ensemble, nous n'avons pas fini de tailler les croupières à Casino et à son PDG. Pour terminer, et c'est important, un salut fraternel à Maggie et aux anciens de Moulinex qui ont souffert du même tyran et dont je soutiens le combat. Salut à tous.
Bonjour, je voudrais comme beaucoup pouvoir me réjouir de la reprise de Le Jabi par le groupe LVMH. Mais avec tout le respect que je dois à ces femmes, à ces ouvrières, j'ai peur qu'elles se fassent, enfumées, entre guillemets. LVMH, c'est Bernard Arnault, et si ma mémoire est bonne, c'est le même propriétaire d'une usine qui avait son siège dans le nord de la France. Des petites mains fabriquaient pour des couturiers, des costumes de grand chic. Et on avait eu, il y a quelques mois, quelques années, le privilège d'entendre chez Daniel Mermet le courage de ces femmes qui avaient pris une action pour se rendre à l'assemblée de LVMH parce que leur usine était sacrifiée pour être délocalisée. Alors LVMH, Bernard Arnault, je pense que c'est un grand pote à Sarkozy, donc il veut lui faire un petit cadeau là avant les élections. Il lui rachète, il fait racheter son usine, 90 ouvrières par rapport à sa fortune, je crois, dans les 10 premières mondiales, ça doit représenter Epsilon. Donc après, il verra bien s'il délocalisera ou pas. Et puis, la dernière chose qui m'a heurté beaucoup ce matin, c'est qu'aux infos, on entendait le repreneur, là, qui va fabriquer des sacs Vuitton, parler de Laurent Wauquiez en disant « quand Laurent m'a appelé », donc c'était ni le ministre, ni le maire, ni le député, ni que sais-je, c'était Laurent, donc sans doute un grand intime à lui. Ça paraît cousu de fil blanc. Moi, je sais pas, plus c'est gros, plus ça passe. 3 jours et on reprend cette usine. LVMH, par ailleurs, on laisse crever une dans le Nord. Je sais pas, moi, je suis très dubitative. Voilà. C'est ça, le monde aujourd'hui. Ben, bonne journée quand même. C'était Françoise à Autun.
J'aime bien le mois de février. J'aime bien le mois de février parce qu'il est court. Les pauvres ont plus de facilité à terminer le mois, les mois de février. 28 jours d'habitude. Cette année, c'est un petit peu moins bien parce qu'il y a 29 jours. Enfin, j'attendrai l'an prochain. Le bon mois de février qui fait 28 jours. Gilles, de Nîmes.
Merci, merci, bravo pour tous ces messages. Vous avez entendu, on perd pas toujours, hein, ceux qui ont suivi nos aventures avec ou plutôt contre Casino. Il y a une bonne nouvelle quand même, hein, on perd pas toujours. Alors aujourd'hui, vous allez découvrir une chose que vous savez déjà. c'est que vous ignorez que la vie est une forêt jusqu'au jour où le premier arbre s'effondre. Jusque-là, il y a des ombres, il y a des lumières, il y a de l'air, du petit vent qui fait bouger les feuilles. Et vous êtes entouré par des arbres de toutes sortes, des hêtres, des chênes, des frênes, des bouleaux, des cyprès, des érables, des ormes. Ormes. Quel beau mot, hein, ormes. Toutes sortes d'essences vous entourent et vous en faites votre miel, votre bois pour vous chauffer, pour construire votre cabane, ou votre pirogue, ou pour tailler vos flèches. Et j'oublie les arbres fruitiers, très important bien sûr, les arbres fruitiers qui sont autour de vous. Et tout ça vous semble éternel, et à l'évidence il en sera ainsi, jusqu'à la fin des temps. Et ceci jusqu'à la chute du premier arbre qui s'abat. Soudain, avec fracas, on devrait s'y attendre, mais on ne s'y attend pas. Et le voilà, faisant un peu de poussière, arrachant les autres branches des autres arbres, et le voilà, les racines à l'air. Et la lumière commence à rentrer, à faire clairière. Mais c'est une étrange lumière. C'est une étrange lumière, vous vous sentez moins protégé. Et vous comprenez que peu à peu, votre forêt va se dépeupler. Peu à peu, oh, vous avez le temps. Mais là, ce jour-là, c'est le premier. C'était le premier. Et j'en ai fait une histoire qu'on a diffusée sur cette radio en 2001. Puis ensuite, on en a fait un petit livre et un disque avec, qu'on avait réalisé avec Bruno Carpentier, avec un coup de main d'Antoine Chao. Et ça s'appelle Nos années Pierrot. Et je vous propose d'écouter à nouveau cette histoire aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour les AMG, c'est Véro du Tour en Haute-Savoie. Je vous annonce la naissance d'un repère dont la première aura lieu ce soir, jeudi 2 février à 19h au bar Le Savoie à Argentières. Venez nombreux refaire le monde, on luttera contre la morosité ambiante et la sarcosité aiguë. Merci, au revoir.
Bonjour, c'est Alain Bertin du groupe local France-Palestine Solidarité d'Alençon. Nous organisons une conférence débat sur le thème Palestine-Israël, un État, deux États, avec la participation de Dominique Vidal, bien connu de tous les auditeurs de là-bas si j'y suis. Cette conférence aura lieu demain soir, vendredi 3 février 2012 à 20h30, salle Baudelaire à Alençon. Entrée libre et gratuite. On vous attend. Salut à tous.
À tous les AMG de la région toulousaine, ce soir, Bernard Friot fait une réunion publique contre la TVA antisociale et patronale. Bernard Friot à 20h30, salle Castelbou, à côté d'Arnaud Bernard, rue Castelbou. Je répète, Bernard Friot à 20h30, salle Castelbou, à côté d'Arnaud Bernard. Allez, venez-y nombreux. Au revoir.
Salut, c'est Catherine. Ce soir, le repère de Perpignan se réunit comme d'habitude au bar du centre à partir de 18h30. Donc on discutera de différents sujets d'actualité, mais plus particulièrement aujourd'hui de la crise et de notre cher capitalisme à la lumière d'un article de Wolfgang Streck. La crise de 2008 a commencé il y a 40 ans. Un autre rendez-vous à ne pas manquer, c'est samedi prochain, 4 février, la Fondation Andrénine inaugure une expo sur l'histoire du POUM au Musée Mémorial de l'Exil à la Jonquière. Les copains du repère de Barcelone seront là et ils nous invitent à nous retrouver à cette occasion. Donc venez nombreux, c'est samedi 4 à partir de 11h au Musée Mémorial de l'Exil à la Jonquière et ce soir c'est au bar du centre à partir de 18h30. À très bientôt. Ciao.
Dans mon sac, j'ai mis une chemise blanche pour l'enterrement de Pierrot. Il me reste une heure avant de partir pour Nantes. Je vais la passer à ne rien faire. Seulement à penser à nos années ensemble. À petites gorgées. Des bruits de dimanche me parviennent de la rue. La terrasse en face, des enfants, un pigeon, et la mort partout. La mort de Pierrot. Elle a débarqué jeudi en fin d'après-midi. Elle a balancé un coup de bêche dans un tas d'années enterrées dans un coin. Papier, photos, collier, amour, tickets de cinéma. Et tout ça s'est réveillé et s'est mis à parler, à chanter, à voler dans tous les sens. Quel sens? Je ne sais pas. c'est la première fois. On voit sa propre fin dans la fin du prochain. Sauf que là, c'est un frangin. De toute la bande, si j'y pense, de toute la belle équipe, c'est le premier à franchir la ligne d'arrivée. Aucun applaudissement. Aucune gerbe de fleurs pour l'instant. Vous raccrochez le téléphone. Silence. Noir. Et alors, du haut de l'armoire, une valise de mémoire vous tombe sur la tête. Histoire de faire diversion. C'est votre lot de consolation. C'est là, partout. Ça colle comme des nouilles. Ça griffe comme l'amour. Ça vous agrippe comme une femme qui se noie. Ou bien sous les lilas, ça vous appelle avec insouciance comme un copain d'enfance à la porte du jardin. Pas question de les classer, de les astiquer bien propres comme on fait dans les nécrologies. Enfoui, enfui, en vie, en vrac, la mémoire choisit ce qu'elle oublie. Certains sont doux au toucher, ou dérisoires ou barbelés. Ils se mêlent, se déforment, se reforment. Quelques-uns tapinent, la plupart demeurent tapis dans les plis. Et en se retirant, la très grande marée de la mort les fait sortir de dessous les rochers. Ce matin dimanche, c'est le jour du marché. J'ai été réveillé par une petite bande de musiciens de rue sous ma fenêtre. Or, dans un tiroir, près de la fenêtre sur la rue Montorgueil, il y a des photos de nous dans une pochette de plastique noir. J'ai pas envie de les regarder maintenant. C'était le temps du théâtre de la table qui recule. Bientôt 30 ans. On faisait des parades dans les rues, dans les cours des cités. Et c'était exactement cet air-là qu'on essayait de jouer, l'air qui m'a réveillé ce matin. Sur l'une des photos, Pierrot est maquillé en clown avec une trompette en haut d'une camionnette Citroën que nous avions peinturlurée en rouge et bleu avec des étoiles jaunes, en 73 ou 74. Moi aussi, je suis en clown avec un saxo soprano et un béret. Anna porte jartel et banois avec un tambourin MLF vaincra. Il y a Lily, la femme la plus nue de Paris, Momo, le milicien, Pompette et Lufien, sans oublier Pacha, l'accordéoniste champion de France du cafard. Pierrot, cheveux longs, chapeau melon, barbe en pagaille. Il aide sa fille à grimper sur le camion. Ce soir, elle vient m'attendre à la gare de Nantes.
À caisse, prenez deux bouquets, là, monsieur, dame, là, caisse, prenez deux bouquets.
Avec Pierrot, ensemble, nous avons vécu de 69 à 76. On se quittait jamais. On travaillait ensemble, on parlait ensemble. L'un avait faim, l'autre mangeait, l'un buvait, l'autre avait soif. Et Anna, ma femme, à l'époque, c'était pareil. Les doigts de la main. Elle, 25 ans, moi, 26 et nos trois enfants. Elle allait enceinte sur les pavés de mai. Nous habitions à la lisière de la forêt de Rambouillet. Anna et moi, nous avions monté un atelier où nous fabriquions des jouets en bois. Des pantins, des toupies, des pendules peintes. Pierrot est venu travailler et vivre avec nous. Il est mort jeudi. D'un cancer au poumon, 56 ans. Anna m'a appelé. Pierrot, c'est... voilà. J'ai raccroché. J'ai fermé la porte de mon bureau. Je l'ai revue. Avec sa panhard jaune coupée sport, une carrosserie en polyester et un moteur à 2 cylindres. Un vrai cinglé de mécanique. Je le vois arriver dans le jardin. Il descend de sa voiture. Notre chien, un chouchou roux, et notre chèvre font la fête. Oui, une chèvre apprivoisée, 2 ânesses et quelques canards. Nous avons eu des singes aussi. Pierrot porte ce grand manteau afghan défraîchi, ce qu'il avait de plus élégant. Un pantalon patte d'éléphant, en velours jaune citron, des sabots, un mégot, une dent de travers, et il se marre sans aucune raison. Sur ses épaules, sa fille. Et derrière arrive Monette, sa femme. Elle est morte depuis dans un accident de voiture sur une route du Rouergue. La douleur ne nous apprend rien. Chaque mort devrait nous rapprocher les uns des autres, nous rendre meilleurs entre frères humains. Il faudrait chaque fois, devant le mort, penser à l'enfant qu'il fut. J'ai vu l'enterrement d'une vieille ouvrière dans une ville de Sibérie. Sur le cercueil en grosse planche bleue, il n'y avait rien d'autre que sa photo alors qu'elle était enfant devant une palissade. Ici, dimanche, j'entends les enfants de la rue Montorgueil. Je pense à Monette, petite fille. Je pense à Pierrot, tout gamin, qui m'appelle à la porte du jardin. Je revois notre vie de ce temps-là. Au mur des tissus indiens, la lampe en plastique orange, la longue table en bois, 2 bâtons d'encens, un dessin de réserve, une blanquette arrosée de bonnes bouteilles que je volais chaque semaine au Monoprix. Les enfants en pyjama aimaient rester là à nous écouter parler. On les emmenait se coucher, mais l'un ou l'autre en douce revenait écouter sans se faire voir. Parfois, on en trouvait un derrière la porte, endormi sur son ours en peluche. Qu'ont-ils retenu de tout ça? De l'élevage des escargots à l'avenir de Cuba. De l'attraction passionnée, selon Fourier, à la non-hérédité des caractères acquis. Tout nous passionnait, tous les fronts, tous les sujets. Lippe et Marcelin, Bob Dylan et Bruet en Artois, le bal tragique à Colombey, les comités Vietnam de base, Georges Perec ou Rieke Meinhof, les dessins de Chrome et de Willem, tout faisait miel, tout faisait ventre. L'impossible était possible, Pierrot en était certain. C'était une question de temps, d'accord, mais pas question de transiger. Comme dit Henri Thomas, on commence par renoncer à l'impossible et ensuite on renonce à tout le reste. Vous devenez sage, autant dire traître ou pire, social-démocrate. Pierrot avait un bout d'adolescence qui lui était resté en travers de la gorge. Un bout de Rimbaud chopé à 15 ans sur un quai de métro. On ne peut pas se contenter seulement de gagner sa vie. On ne peut pas se contenter seulement de la vie. Les petits bourgeois parlaient assis des musiques planantes, contre-culture et petits livres rouges. Ils parlaient d'un peuple dont ils ignoraient tout. Le Parti communiste niait l'existence du goulag. Le Che était mort en Bolivie. C'était le centenaire de la commune. On lisait le même livre et on se le racontait jusqu'au matin. Kerouac, Dostoïevski, la petite collection Maspero, Ginsberg, Weinegem, Little Nemo, Rezvani, les années-lumière. Pierrot rêvait de la forêt des morts et des tortues de la garde Freinet. On sortait une autre bouteille. Avec une clé à sardine chauffée sur le gaz, il ressoudait un fil de l'électrophone et le disque repartait. Thank you. cet ours continuait à tourner en rond dans sa cage des heures durant, alors qu'on en avait depuis longtemps ouvert la grille.
Dans mon sac pour le voyage, j'ai mis les journaux, Le Monde, Libération. Je me souviens du premier numéro de Libération. Il faut encore 23 millions pour paraître. Prenez votre journal en main. Pierrot avait scotché la une sur la porte de l'atelier. Comment envoyer un chèque pour soutenir Libé? Les huissiers me pourchassaient. Le proprio voulait ma peau. Jean-Paul Sartre expliquait « Nous avons refusé de devenir une entreprise industrielle et commerciale. » Pompidou mourait. Coluche commençait. Je me souviens du grand magique circus, ses animaux tristes et ses filles si libres. Je me souviens de la gueule ouverte, avec les dessins de Fournier. Je me souviens de Pierrot dans sa deux pattes partant pour le Larzac. Des années ferventes, ingénues et perdues comme le temps depuis la nuit des temps. Sauf qu'alors l'avenir avait un futur et que la mort n'était pas encore inventée. C'était simple et clair, le monde était à refaire. L'histoire avait le goût du possible. Cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Oui, pleine d'énergie, d'invention, de révolte et de grandes illusions et aussi d'une féroce répression. Pas seulement policière. Le vieux monde avait pris peur. Insidieusement, toute une réaction conservatrice mettait son grand rouleau en marche. Que la brèche se referme. Que tout change pour que rien ne change. Le bon vieux capitalisme et ses fidèles chiens de garde n'avaient plus qu'à absorber ce bain de jouvence qui allait le rajeunir et le moderniser. Le faire sortir de son lit et de ses gonds pour étendre sa douce dictature au moindre canton du monde. Mais basta. Vivement maintenant. Vivez 100 ans mort, les enfants. Vivez 100 ans de mort. Voilà ce que sa mort vient nous redire à l'oreille. Avec la voix d'une vieille maîtresse un peu fêlée. Ce soir, au dancing des lendemains qui chantent, c'est Pierrot qui paie l'addition. Et même l'accordéon. Pour qu'elle vienne nous réenchanter en nous rechantant la rechanson. Et le mystère de la mort reste là sur le carreau tout entier, nimbé d'innocence, irisé, comme un grand poisson à l'étal d'un poissonnier.
Ah, oui. Je suis né le 18 octobre.
Je suis né un 23 janvier à Versailles.
Moi, c'est un brou sur Chantraine. Je suis le seul individu au monde à qui ceci est arrivé.
Et nul n'y peut rien.
Des images me tombent de partout et tourbillonnent dans la poudre des années. C'est vrai, la nostalgie pue toujours un peu de la gueule. Mais trop tard. Sous la poussière, la mort a cassé le cadenas de la boîte en libérant les papillons noirs et les papillons dorés. Pierrot. Pierrot juste éclairé par le tableau de bord du camion. Pierrot qui raconte la véritable histoire du cocktail Molotov. Pierrot qui n'arrive jamais à se réveiller. Pierrot qui roule une cigarette. Pierrot qui se verse un café. Une cafetière rouge entoure les maillets. Pierrot qui sort dans le jardin et qui marche vers les arbres. Les yeux fermés, je vois les ombres porter et les lumières trembler. Pierrot qui fabrique un truc, qui bricole un machin, qui bidouille un bazar. Pierrot qui construit un tambour, Pierrot et sa flûte traversière, Pierrot dans ce paysage, les enfants qui courent derrière un chien roux, Céline, Mathieu, Colas, Benjamin, n'allez pas trop loin. Et aussi cet endroit qui me revient dans la forêt vers les bruyères où à midi, en sortant de l'atelier, nous allions pique-niquer. La plage. Le genre de lieu et d'instant où il vous suffit de respirer pour être heureux. Pierrot essuie un couteau, coupe une tranche de saucisson, mange la tranche de saucisson, coupe une autre tranche de saucisson. Pourquoi voudriez-vous qu'il soit mort aujourd'hui? Dans les bruyères, il sourit. Il part pour l'Ardèche demain. Trois maisons fermées dans une vallée perdue. Il parle de s'installer là. Ne pas perdre sa vie à la gagner. Blanc 01. L'ami GB. On arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste.
Oh oui, tu fais nos petits cœurs. Où il est le ciel? Oh là là. Eh oui. Coucouillo. Oui. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Le petit chaperon rouge. Oh oui, tu veux le ciel. Oh là là. Eh oui. Oh, tu y as. Oui, c'est que tu me racontes, toi. Oui.
Partons le retrouver au fond de cette vallée, au bout d'une nuit de voiture, des maisons de pierre mortes, des châtaigniers en friche, des vignes qui courent sur des murets éboulés. Des copains ont acheté une maison. Toute une bande vient d'arriver là. Hirsute, chevelu, à fleurs, le Maos Pontex, l'anard pétard, la féministe rouge, l'écolo végétarien, le rêveur définitif et le comptable masochiste. Pierrot aussi veut s'installer dans le coin, sous l'île de Giono, déjà écolo. Il rêve de se faire une cabane dans les arbres, revenir à la frugalité, faire une attelle à la patte d'un oiseau. Je le vois rigolant sur les pierres du torrent, un beau diable. Il fait un panier, il retrouve tous les gestes de l'osier. Sous les ronces, il vient de remettre en service un puits qui n'a pas servi depuis la guerre, et même depuis le maquis. D'après le père Vaucanson qui passe avec sa chèvre blanche. Tandis que dans l'estafette bleue, les gendarmes, comme chaque jour, viennent simplement vérifier les papiers. Apeurés, les autochtones se renfrognent à double tour, reluquant tout de même les filles nues à la cascade, mais de très loin, entre les feuilles. Aujourd'hui, cette époque placée sous l'étiquette Babacool est au purgatoire. Le moment venu, on la ressortira comme un âge d'or. Qu'on n'oublie pas alors tout le comique de la rencontre entre ces chevelus anarcho-désirants et cette France profonde, granitique, lâchant le chien et refermant sur son déclin ses volets et ses mains. Seul, Pierrot avait réussi l'impossible rapprochement. Dans la vallée, l'été venu, L'une des maigres ressources était la culture des haricots verts dans des parcelles de bonne terre noire surplombant le torrent. Haricots verts de premier choix pour les bonnes tables et qui exigent un arrosage abondant et fréquent. Et c'était l'eau de la rivière qui était pompée avec un vieil engin pétaradant et puant le mazout. Une énorme pompe provenant des stocks laissés par l'armée américaine à la libération. Or, je l'ai dit, après les effusions angéliques du début, les habitants étaient devenus méfiants, sinon hostiles, à ces zigotos barigots. Ce qui faisait le désespoir de beaucoup, dont l'ami Pierrot. Une fois, en passant avec son motoculteur, Dédé, le voisin du dessus, avait demandé si quelqu'un, par hasard, n'aurait pas une clé de 6 pour régler son gicleur. Pierrot lui avait arrangé ça au petit poil. Dédé avait remercié, mais il avait refusé de boire un canon. Et l'on se morfondait, et l'on s'interrogeait. Le couple d'homosexuels militants, la féministe clitoridienne, l'antipsychiatre alternatif, tous se demandaient bien pourquoi ces gens-là ne nous aimaient pas. Or, un soir, très tard, et où encore une fois on parlait de ça, quelqu'un frappa la porte. C'est Dédé. Entre, Dédé. Assois-toi, Dédé. Bois un coup, Dédé. Non, il entre pas. Mais qu'est-ce qui t'amène, Dédé? Et voilà, c'est la pompe. Quelle pompe, Dédé? La pompe pour arroser. Elle est en panne, elle est foutue. C'est la fin des haricots, dit un rigolo. Personne ne rigole. Silence. Dédé demande, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît ici. Et c'est ainsi que Pierrot partit dans la nuit avec sa caisse à outils. Dédé montrait le chemin et écartait les branches. Les paysans se tenaient silencieux, debout sous la lune au bord de la rivière, autour de la machine comme autour d'une baleine morte. La panne, c'était la récolte foutue. Et pas les moyens de racheter une pompe, évidemment. À la lueur des lampes torches, Pierrot a opéré toute la nuit. Café, casse-croûte, cambouis, pastis. Il a même fait allumer un feu pour forger une pièce, à ce qu'on m'a dit. Moi, j'étais allé me coucher. Au point du jour, dans mon duvet, j'ai été réveillé par le bruit du moteur de la pompe. La machine était repartie, ressuscitée, miracle. Toute la maison était debout, le jour se levait, frais du jour. Café, pâté, gros rouge, tout le village fraternisait. Dans la pièce du bas, sur le chemin, devant la maison, chiens, chats, enfants, homos, maos, écolos, villageois, filles en chemise... Ça rigolait, ça trinquait en frère, avec derrière le bruit de la pompe en écho dans la vallée. Pour moi, à jamais dans la vie qui me reste, penser à Pierrot, ce sera penser à ce matin-là. On s'était rencontrés tout gamin. On avait 12 ou 13 ans, vers 55-56 par là. Pierrot était un copain de David, son voisin dans la banlieue est de Paris. Nous étions dans la même classe, David et moi, en 6e. On retrouvait Pierrot dans la rue. Son côté énergumène m'épatait. Celui qui déconne dans le fond de la classe, celui qui se paye le prof. Il avait déjà la dissidence hirsute. Futur plombier de génie, il bricolait aussi la plomberie des idées. Un livre dans la poche, un croquis dans l'autre, il avait déjà sa boîte à outils pour refaire le monde. Une façon de parler en marchant, de rigoler trop fort avec sa dent de traviole. À 14 ans, il réparait les voitures des voisins. Son père était au parti communiste. Je crois revoir leur maison dans une rue qui monte. Et sur le trottoir, Pierrot, couché sous une voiture, ses pieds qui dépassent. Une vraie fleur de banlieue, si j'y pense. Emmerdeur, réfractaire. Le rebelle à qui ça retombe toujours sur la gueule. Une tête brûlée, avait dit ma mère. Pas si faux. Intempestif. Voilà le mot qui lui convient. Pierrot l'intempestif. Il aurait pu devenir un formidable braqueur. Le cerveau d'une bande. Pierrot était un bandit contrarié, celui qui vole aux riches pour donner aux pauvres, un bandit social, celui qui organise l'évasion, tout prévu, tout planifié. On creuse le tunnel, mais pour tout le monde, pour que tout le monde se libère, pour que l'humanité entière connaisse enfin la liberté. La belle pour tous, sinon rien. Je les rejoignais dans le jardin en fouillis de la maison de David. Une grosse bicoque défraîchie, un vert paradis idéal. Le père de David faisait des casquettes et des faillites. La casquette Capex, la casquette qui va à toutes les têtes. C'est-à-dire une taille unique avec un élastique et qui s'envolait au premier coup de vent. Un juif polonais, résistant, communiste aussi. Dans un appentis qu'ils avaient retapé au fond du jardin, Pierrot et David faisaient de la peinture et des sciences naturelles, en fumant la pipe. Ils étaient Van Gogh ou Gauguin, chacun son tour. Moi, j'apprenais par cœur la prose du Transsibérien. Dans le grand art en livre de poche, les nudes de Modigliani me faisaient chavirer. Je les regardais, cœur battant sous le manteau en rentrant chez moi après la ligne de chemin de fer. Un jour, David nous a montré des dessins faits dans les camps, des dessins originaux, des figures décharnées, des baraques, des miradors, des lieux, des dates au crayon bleu et noir sur du papier gris, des dessins à la main. La main de qui ? Quels yeux ? Quel cœur ? Quelle âme au bout de cette main ? J'y repensais bien plus tard en lisant Robert Antelme. Ne retranchez personne de l'humanité. Des souvenirs remontent à la surface. La mémoire est un étang. Je revois ces trois gamins silencieux devant ces dessins ce jour-là au fond d'un jardin de banlieue. Pierrot expliquait que ses parents refusaient qu'il fasse des études qui auraient pu faire de lui autre chose qu'un prolétaire. On entendait ça à l'époque dans les familles communistes. Si les enfants se mettaient à réussir, c'est sûr, ils devenaient des cols blancs, des traîtres à leur classe. « Je ne me vois pas un jour être commandé par mon fils », disait le père. Par chance, nous ne sommes pas tombés dans le stalinisme ambiant. Mais nous avons toujours eu tendresse et respect pour ces pères en bleu, béret et pince à vélo au point du jour, l'hiver, l'humain dans la musette. Après tout, ils furent longtemps nos seuls héros dans la vie réelle, juste après Marcel Cerdan et Louison Bobet. Nous parlions de l'Algérie aussi. Pas question d'y aller si notre tour venait. On désertera. Nous, les Algériens, ne nous ont rien fait. Et même dans ces banlieues ouvrières, nous leur ressemblons. Solidarité, à bas l'impérialisme. Les impérialistes qui passaient par là longeaient les murs, tout piteux. On se demande d'où viennent les convictions qu'on trimballe toute sa vie. Elles viennent de là, de trois phrases entre gamins qui se repassent leur première gauloise derrière les sureaux. Je revois la silhouette nerveuse et pointue de Pierrot dans le noir et blanc des années, ses gestes en parlant. Je ne sais d'où lui venait ce côté élite ouvrière, dandy du pied à coulisses, amoureux de la belle ouvrage, caresseur de mortaise. Ce ne sont pas les pauvres masses abruties à la chaîne qui feront la révolution. Au fond, son époque, c'était la commune. Sa patrie, c'était le faubourg. Son cœur était insurgé.
J'aurais bien voulu la 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 Forever by the la 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 la.
Lumière d'un vélo, lumière d'un théâtre, lumière d'un train dans un faubourg, à sa façon il était un homme des lumières. Une intarissable jubilation à inventer, à vivre, à lutter. Il suffisait qu'il fût quelque part pour que tout devint neuf. Changer le monde, changer la vie et l'eau des poissons rouges. Je n'arrive plus à croire à quel point on y croyait. Pour les bâtards que nous étions, des bâtards sociaux, relégués dans la banlieue du monde, mai 68 fut une fête sans pareil. Tout gosse un jour ou l'autre, ensemble ou séparément, nous avions compris ce que nous étions. Le regard d'un maître, l'humiliation d'un père, le type qui vient pour couper l'eau. Oui, nous étions de la broutille en trop, de la chair à chagrin, de la viande, comme disait papa.
ça écorche, ça rapproche aussi, ça serre les poings. Et voilà ce mets. On leur balance des pavés, on leur met le feu, on leur joue les barricades. Ils tremblent, ils se terrent, ils envoient leurs chiens. Et voilà qu'une poignante allégresse fait vaciller leur citadelle de carton. Voilà qu'une autre vie est possible, que la vie est possible. Tu vois, Pierrot, on n'est plus tout seul, chacun dans son coin. Nous ne sommes rien, soyons tout. Des vies obscures, asservies, promises au métro, boulot, dodo, soudain s'emparent de la rue et parlent, parlent, parlent. En 89, on a pris la Bastille, en 68, on a pris la parole. Aujourd'hui, pour raconter cette histoire, on exhibe d'anciens gauchistes devenus les renégats professionnels. Le sénateur, le patron de presse, le publicitaire, le porte-parole du patronat. Des collabos cravatés, bien nourris, avec tous les ailes serviles des repentis. Méprisés par leurs maîtres, ils sont les meilleurs militants de la culture d'impuissance qui domine. Nous avons tout essayé, il n'y a pas d'alternative. Chaque époque a ses dorios. Mais c'est confondre le miracle et ceux qui ensuite vendent les médailles. Nous ne sommes pas prêts d'oublier tous les possibles entrevus par la brèche de mai. Le goût en est resté sur les lèvres et se transmet par le baiser. Tard dans la nuit, avant d'aller dormir, tel le bon soldat Schweck, on se promettait que si jamais au cours de l'insurrection on était amené à se séparer, on se donnerait rendez-vous à 3 heures après la Révolution. Grâce à Pierrot, ma petite entreprise commençait à ressembler à quelque chose. Mais cet artisanat était une impasse. On ne pouvait travailler que pour des rombières qui avaient les moyens de s'offrir ces coûteux objets d'art. On était impatients d'autre chose. Pierrot avait fait du théâtre un peu, et moi aussi. Il fallait être en prise avec cette époque qui bougeait. Au festival de théâtre de Nancy, nous avions vu une troupe brésilienne, Pao et Chirco, qui jouait Noce chez les petits bourgeois de Brecht. Des mois durant, on s'est préparé, avec des mots, des nuits, du papier, et des gestes, beaucoup. Nous étions assis, nous voilà debout. Oser lutter, oser vaincre. Comment surmonter notre peur d'échouer? Je n'avais que des dettes, donc rien à perdre, et c'était le moment. Un soir, on s'est décidé à la vie, à la mort. En quelques semaines, on a monté une troupe et un spectacle. Le théâtre de la table qui recule joue Mortimer, Baltimore. Des copains, des comédiens, avec nous se sont jetés dans l'aventure. Et nous voilà partis. Barjot, hurlu-berlu, bricolo, n'empêche, grâce à Pierrot, on a tenu. L'année suivante, 1975, nous étions au Festival d'Avignon. Pierrot jouait un personnage avec des chaussures en or d'1 mètre de long. Il faisait un striptease. Il le faisait vraiment. Il faisait tout vraiment. Il faisait la régie en même temps, la lumière, le son. Il était heureux, furieux, amoureux. On s'épuisait, on jubilait. Raymond Couste nous avait écrit notre premier papier dans Libération. Il y eut des instants de grâce, des premières fois comme des premières fois d'amour, des moments suspendus comme des ponts de papier, des ponts de rire et de paroles au-dessus du vide de la vie. Cette vie qui se vide si vite et qui est partie de lui jeudi. C'est vrai, jusque-là, nous avions des idées, surtout et surtout des idées. Mais le théâtre nous permettait de nous confronter aux réalités, réduire l'épaisseur de la vitre entre le monde et nous, casser ce carcan qui étouffe en chacun ses propres possibles, mesurer notre inclination à la servitude volontaire et involontaire,
Comment s'émanciper sans imiter le maître? Comment échapper à cette maladie contagieuse qui est la haine de la vie? Un panier garni était offert aux spectateurs qui découvraient les messages politiques dissimulés dans le spectacle. À la caisse, sans nous le dire, la petite amie de Pierrot laissait entrer gratuitement les spectateurs qui lui plaisaient. Ça se finissait en accordéon, en casse-croûte, en javanaise. Au bout de la nuit, il fallait encore aller coller les affiches. Dans la rue, on poussait le camion et le jour se levait sur les remparts d'Avignon. Faut-il pousser un camion pour que le jour se lève? Depuis sa mort, depuis jeudi, je repense sans cesse à quelques lignes de Marcel Proust lues je ne sais où. Un peintre monte un long chemin. Il parvient enfin en un point où, à travers les arbres, il aperçoit le lac qu'il a toujours voulu peindre. Le lac est là, enfin, tout entier. Il sort sa toile, il sort ses pinceaux, mais la nuit descend et il ne peut plus peindre. Il est trop tard. Et c'est une nuit sur laquelle le jour ne se relèvera plus. Pierrot a-t-il eu le temps de peindre son lac? As-tu eu le temps, vieux frère? Un de mes professeurs de dessin aux arts appliqués donnait un superbe enseignement qui se ramassait en une seule phrase. À chaque instant, votre dessin est fini. En règle générale, dans un cours de dessin, on vous indique le temps dont vous disposez, 5 minutes, 1 heure, 4 heures ou plusieurs séances. Avec lui, non. Il fallait commencer par l'essentiel et rester sur l'essentiel. Dès que le fusain touchait le papier, et à chaque trait, l'urgent était l'essentiel. Un essentiel qu'il appartenait à chacun de découvrir, puis de s'y maintenir, sur la brèche, sur la ligne de crête, première ligne, ligne de feu, ligne de partage des eaux. Ainsi, à chaque instant, le dessin peut s'arrêter. L'important est dans chaque instant de la ligne, pas dans la fin, ni dans le début, mais dans le trait, dans le chemin. Quel sage pourrait ainsi dessiner sa vie? Qu'à chaque instant, la vie puisse être interrompue et qu'à chaque instant, elle soit essentielle. Toujours prête à la halte et prête à s'en aller. Nous croyons poursuivre un but, nous croyons que le trait, comme un chemin, nous conduit vers un but. Or, il n'y a pas de but. Le but, c'est le chemin. Le but n'est rien. Le chemin est tout. Dans le chemin, il y a tous les possibles. Alors que dans le but, il n'y a que le but. Être en chemin. Être en chemin, voilà le but. Être n'est pas le but. Il n'y a d'être que d'être en chemin.
Mais par les temps qui courent, la, 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 la.
En 76, nos chemins se sont séparés. Je ne sais plus comment. On ne sait jamais comment. Après nos années de théâtre, j'ai commencé à faire de la radio. Je suis entré dans un autre monde et aussi le monde changeait. Il y a un soir, tout est encore joyeux. On dîne rue Bobillot, une bavette à l'échalote. Moi aussi, avec des frites, moi aussi. On se raconte des choses qu'on ne s'est jamais dites. On finit la bouteille, on reprend une demi. On marche dans la nuit, on se raccompagne. On se dit salut, embrasse les mômes, salut toi aussi. Salut, bonne nuit toi aussi.
sans savoir que c'est la dernière fois. Réfractaire, rebelle, récalcitrant, je cherche des mots pour lui et j'oublie le plus évident, résistant. Une résistance d'avant même l'idée de résister, une résistance de la source, une résistance où l'on trouvera ensuite les raisons de résister, une résistance comme existence, une résistance à la destruction de la vie, une résistance à la mort. Malgré la morphine, sa dernière ligne droite fut un combat. Il arrachait son goutte à goutte, il engueulait le monde, il coupait les tuyaux plantés dans ses bras. Une façon de dire, vous ne mourrez pas vivant. David est venu le voir à Nantes, Anna aussi, il déconnait, il déraillait. Une façon de dire, ils mourront peut-être, mais je ne les aurai pas aidés. Une façon de ne pas se rendre, surtout à l'évidence.
J'aurais bien voulu t'écrire une chanson d'amour, mais par les temps qui courent, ce n'est pas chose commode.
Demain à l'enterrement, chacun sera là portant des bouts de vie vécue avec lui. Chacun une époque, un morceau. Tous les épisodes de son parcours seront réunis. Ce sera un instant unique, une célébration à notre insu. Sa compagne sera là avec le chapitre des 15 dernières années. Il y aura son frère, avec les images de son enfance, et ainsi de suite. Parents, amis de toujours, copains d'aujourd'hui, chacun une pièce de la mosaïque. Peut-être même une ancienne amante, discrète, dans le fond, avec son chagrin clandestin. Chacun portant une histoire, un éclat, une scène de vie. Et là, silence. Attention aux mots. Ils peuvent tuer pour de vrai. Ce mort est vulnérable. C'est un enfant. Aucun homme ne mérite d'être réduit à des mots. Mais si un instant par la pensée, on coud ensemble ces pièces de mémoire, si on emboîte mortaise et tenons dans le bois des souvenirs, si on soude la ferraille des légendes à la tôle de l'oubli, on aura le bonhomme, tel qu'en lui-même enfin, un cerf-volant taillé dans les songes de ses nuits et de ses jours. Et pour ne pas confondre le silence et le néant, chacun repartira avec sa part à lui. Et l'ami Pierrot se dispersera en une petite diaspora des mémoires comme en autant de fidèles et tranquilles et vivantes sépultures. Mais tout ça est une blague, bien sûr. Une sale blague peut-être, mais une blague. Il va se relever. Il va revenir. Je connais l'oiseau, c'est de la comédie. Si vous la rencontrez, dites à la mort que ce genre de mise en scène ne marche pas avec nous. Il va se relever, il va venir saluer, il va venir passer sa mort dans nos mémoires. Pas pour nous hanter, mais en ami, en amant, en père, en fils, en frangin, assis au bout de la table, à rouler une cigarette et à refaire le monde comme lui seul savait le refaire. Avec la taille précise des écrous et des boulons, la hauteur idéale pour les arbres, les noms et les prénoms des animaux. Voilà ce qu'il va faire. Ce n'est pas un abandon, c'est un genre de présence différent, un autre genre d'existence qui continuera tant qu'il y aura des tables dans nos mémoires, des coups de rouge, des entrées en scène, des applaudissements, des accordéons. Une petite fille sur l'épaule, Céline, une panhard jaune, des rires, un pavillon à finir de construire, des révolutions, des amours et des camions qui ne démarrent pas, ce qui vous oblige à rester là, allongé dans la nuit, à refaire le monde, avec la profondeur précise des fondations,
et l'épaisseur idéale pour les cloisons et l'éclairage et la hauteur sous plafond. C'est bientôt l'heure. Je vais prendre mon sac avec la chemise blanche pour l'enterrement. Je ne vais pas ouvrir le tiroir avec les photos. Je vais éteindre la lumière, je vais fermer la porte et je partirai. Merci à tous. C'était une réalisation de Bruno Carpentier à l'époque en 2001 avec un co-réalisation d'Antoine Chao. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis ou sur le site là-bas.org, là-bas.org ainsi que sur notre page Facebook. À la technique aujourd'hui, Renaud Mahé et Thomas Eliès, Bertrand Chometon et Franck Adhérère étaient à la réalisation aujourd'hui, assistés de Marina Touyez et Grégory Salomonovitch. Attends vos messages sur le répondeur de la base où j'y suis au 01 56 40 37 37. Réclame.
This is my family and this is hell.
France Inter présente Another Happy Day, un film de Sam Levinson, prix du scénario au festival de Sundance. Une famille se réunit pour un mariage, des adultes qui se font la guerre, des grands-parents réac, des tantes hystériques, des ados désaxés. Pour le meilleur et pour le pire, une comédie grinçante avec Ellen Barkin, Demi Moore et Ezra Miller, actuellement au cinéma. Retrouvez Another Happy Day dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
On se retrouve demain à 15h pour la base si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
Nicolas Sarkozy promet une campagne présidentielle choc à ses troupes, selon des députés qui ont recueilli ses confidences aujourd'hui. Le président presque candidat envisage de faire donc une campagne autour de propositions très fortes sur l'éducation, le chômage et l'emploi. À propos du logement, lors d'un déplacement à Longjumeau dans l'Essonne ce matin, Nicolas Sarkozy a par exemple promis de réformer la fiscalité immobilière, notamment concernant les droits de mutation touchés par l'État et les collectivités territoriales. Au lendemain de son agression lors d'un déplacement de campagne, une femme avait jeté un sac de farine au visage de François Hollande. Eh bien, il est aujourd'hui question de la sécurité autour donc du candidat socialiste. L'intéressé y a répondu aujourd'hui. C'était lors d'une visite sur le thème de la santé à l'hôpital Robert Debré à Paris.
Nous devons faire attention à tout, et moi le premier. Mais en même temps, je ne veux rien changer dans la manière avec laquelle je veux m'adresser aux Français. Donc, qu'on évite des incidents, c'est exceptionnel, mais ça peut arriver. Pourrait même être plus grave, nous ne savons rien. Hier, c'était une personne qui n'avait pas toute sa raison, donc il doit y avoir cette sécurité. Et en même temps, je veux avoir ma liberté, je veux avoir ma proximité, je veux rencontrer qui je veux, même en prenant un certain nombre de risques, tant pis. Mais en même temps, il y a des personnels ici qui doivent assurer ma sécurité, parfois contre moi, mais en définitive pour ma propre santé.
Des propos recueillis par Cyril Graziani. L'agresseur en question, elle était admise à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Et par ailleurs, donc, l'équipe chargée de la sécurité de François Hollande est passée aujourd'hui de 2 policiers à 14 policiers. Le Sénat adopte aujourd'hui à la quasi-unanimité une proposition de loi UMP sur la chasse. Le texte reconnaît le rôle des chasseurs comme instrument efficace de gestion de la biodiversité. Seuls les écologistes ont voté contre. Voilà une centrale que certains trouveront bienvenue en ces périodes de grand froid. EDF a inauguré aujourd'hui sa centrale électrique fonctionnant au gaz à Blénaud en Meurthe-et-Moselle. C'est la première en France. Mise en service en octobre, elle injecte dans le réseau 1250 MW. Selon EDF, cette centrale thermique est capable de démarrer en quelques heures pour répondre au pic de consommation. Le marché de l'automédication en France a progressé de 1,9% en 2011 selon l'Association des industriels fabricants aujourd'hui. L'automédication, ce sont les médicaments achetés sans ordonnance. Selon le président de l'Association des industriels fabricants, cette hausse est due à l'environnement actuel qui est jugé difficile. Près d'un quart des personnes tuées sur les routes l'an dernier sont mortes dans une ligne droite et la moitié des conducteurs étaient en état de somnolence. C'est ce que révèle aujourd'hui une étude de l'association 40 millions d'automobilistes. Enfin, dur le trafic des trains depuis depuis ce matin en Indre-et-Loire et dans la région d'Orléans. La nuit dernière, il y a eu tout d'abord une collision entre deux trains de marchandises à Maillé sur l'axe Tours-Poitiers. Les deux trains roulaient à basse vitesse, il n'y a pas eu de blessés, mais la circulation s'est faite ensuite sur une seule voie, ce qui a entraîné la suspension pour la journée de la quasi-totalité des TER. Ils ont été remplacés par des cars. Pour les TGV, les retards ont atteint 30 minutes sur la ligne Paris-Bordeaux. Le trafic, dit-on, devrait revenir à la normale demain. Enfin, une rupture d'alimentation électrique ce matin dans le Loiret a également perturbé le trafic sur la ligne Orléans-Tours. Trafic donc également perturbé jusqu'à la journée. Le retour à la normale est prévu en fin de journée. Vous écoutez France Inter, 16h04. Et tout de suite, on va retrouver d'ailleurs, et vous me faites faux bond, Frédéric Lodéon, vous êtes à Nantes.
Eh ben oui, je vous regrette, mais votre douce voix nous berce tous. C'est la folle journée.
Eh ben, amusez-vous bien alors.
À bientôt Laetitia. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et bonjour à notre cher public ici présent. Pour cette folle journée qui dure maintenant une semaine ou presque, on le sait, tellement il y a du succès à la Cité des Congrès de Nantes. On va entendre les applaudissements, vous allez voir. Eh oui, voilà, c'est un plaisir de retrouver les amis. Ben ouais, on n'a pas toutes les places qu'il faut, les gens debout, on s'excuse, mais on est content que vous soyez là quand même. De toute façon, pour ceux qui sont debout, on va se rattraper comme on pourra, de toute façon. Eh ben, nous avons un plateau absolument superbe, Claire-Marie Le Guay. Bonjour Claire-Marie.
Bonjour
pianiste,
Frédéric.
Fameuse, Henri de Marquette, que j'adore, violoncelliste.
Bonjour Frédéric.
Voilà, David Cadouche qui va arriver, et puis notre ami Laloum, Madame Laloum aussi, qui va être présent. Vous savez, c'est une émission où on passe, chacun vient, chacun passe, un peu comme le début de Carmen sur cette place. Et nous avons de la très belle musique russe, bien sûr, c'est le sujet. Claire-Marie, un disque vient de paraître, Voyage en Russie, avec des auteurs très divers, Rachmaninov, Tchaïkovski, Borodine, Moussorgski, Rimsky-Korsakov, Scriabine. Est-ce vous qui avez choisi ces auteurs-là, ou bien est-ce que la maison de disques, c'est Mirare d'ailleurs, qui vous publie, a eu son mot à dire?
Écoutez, c'est un choix commun, c'est un cheminement commun pour ce qu'on appelle ce voyage en Russie, qui permet de découvrir les auteurs romantiques qui ont écrit pour le piano, que sont Tchaïkovski, Rachmaninov, Scriabine. Et ça permet d'avoir, je pense, un panel de tous ces paysages musicaux russes qui sont si beaux.
Alors la musique, c'est une chose magnifique, on la partage ici à Nantes et puis ailleurs, Radio France bien sûr. Et vous avez fait quelque chose de très touchant en dehors même de votre art, vous êtes allé jouer au CHU à Nantes, j'ai vu ça dans le journal tout à l'heure.
Oui, c'était hier et c'était très émouvant parce que ce sont ces moments qui nous prouvent encore plus, une fois de plus, combien la musique transmet un message fort et quelle émotion elle peut dégager. Et quand on se trouve face à des personnes qui ne savent pas contenir leur émotion, c'était le cas hier parce que voilà, c'est des personnes âgées en grande difficulté, même en fin de vie, et qui témoignaient des émotions qu'elles ressentaient de façon parfois assez
bouleversante. Pour vous, j'ai l'impression que vous l'êtes encore.
Oui.
Rien qu'en parlant, vous êtes encore très ému en parlant de ce moment-là.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'était très très fort et je pense que c'est important que les musiciens prennent ce rôle-là.
Est-ce que c'est trop dur? Est-ce que vous allez réitérer cet essai?
Je serais très heureuse de recommencer et je pense que j'ai des choses à apprendre dans ce domaine pour me rendre plus disponible ou pour apprendre à comprendre ce qui se passe.
Bon, c'est très beau. Allez, on va commencer en vitesse, justement, parce que c'est le Vol du Bourdon de Rimsky-Korsakov, mais revu pour le piano par Rachmaninov. Thank you. Le vol du Bourdon de Rimsky-Korsakov, revu par Rachmaninov, et c'est tiré d'un opéra, parce que Rimsky a composé pas mal d'opéras, ce qu'on ignore un petit peu, et ça s'appelle le Tsar Saltan, la légende du Tsar Saltan, exactement, et c'était aussi un des membres du groupe des cinq, hein, ce petit et puissant groupe qui voulait défendre la musique purement russe contre les avancées de la musique plus occidentale, plus européenne, dans le sens où la France, ou l'Italie, ou l'Allemagne avaient une certaine avancée quand même. Donc il y avait Balakirev, César Cui, Moussorski, Rimsky déjà cité, et puis Borodine. Alors voici un autre personnage tout à fait étonnant, c'est Scriabine. Alors lui, on peut dire qu'il était un peu allumé quand même, non?